je suis surtout chargé de présenter Didier Roux. Alors, présenter Didier Roux, ça nécessiterait de lire tout un livre, parce que je l'ai évité. J'ai noté un certain nombre de points qui me semblent personnellement plus marquants que d'autres. J'espère avoir fait le bon choix, il va être frustré, parce que ça va être assez vite de se lier. Par exemple, j'ai envie de commencer par le fait que malgré ses retranchements dans le groupe Saint-Denis, il y avait des médias. Ceci est mon livre.
Merci Bernard. Tu as oublié de préciser que nous avons collaboré pendant de nombreuses années ensemble. Donc je suis très content d'être à Bordeaux, ne serait-ce que parce que j'y suis que le week-end d'habitude, donc ça me fait l'occasion de vous rencontrer un peu plus tôt. Alors je vais vous parler de la maison du futur, qui est un sujet évidemment qui concerne tout le monde. Je vais surtout passer un peu de temps au début à décrire les enjeux auxquels nous sommes confrontés, et après des élections européennes qui ont été au moins en France très vertes, vous allez voir que c'est au goût du jour. Alors, quand on pense maison du futur, on pense essentiellement à quelque chose comme ça. Donc, je pense que vous rêvez tous, ou peut-être vous ne rêvez pas, mais enfin, en tout cas, c'est ce que ça peut évoquer d'habiter dans un habitat futuriste. En fait, vous allez voir, et ça sera clair à la fin de mon exposé, que ce type d'habitat avait déjà un certain nombre de solutions qui demandent à être remises à jour pour le futur. Et on verra ça à la fin de mon exposé, une fois que je vous aurai introduit un certain nombre de notions qui sont nécessaires pour comprendre pourquoi ces habitats qui ont été construits ou qui sont construits de façon extrêmement, croit-on, primitive, mettent en jeu des phénomènes physiques qui sont déjà sophistiqués. Alors, évidemment, nous sommes dans une société énergivore. Nous sommes dans une société qui a l'habitude de consommer une énergie pas chère, facilement transportable, et ce depuis maintenant un peu plus d'un siècle. Cette solution, en fait, cette situation est une situation qui est précaire, et c'est cette courbe probablement qui illustre mieux l'un des défis auxquels nous sommes confrontés, qui est l'épuisement des ressources naturelles, ou ce qu'on appelle les énergies fossiles. Alors ça, cette courbe-là, elle s'appelle le peak oil, c'est quelque chose que vous avez vu pas mal dans les journaux. C'est la quantité de pétrole que l'on extrait chaque jour en fonction du temps. Ça, depuis le début de l'extraction du pétrole, alors je pense que vous avez tous lu Lucky Luke et vous savez tous qu'on a trouvé du pétrole au début du siècle dernier, et au début sur des fonctions extrêmement limitées, et puis que c'est devenu effectivement une source énergétique extrêmement importante pour le fonctionnement de l'industrie, des transports, et comme on va le voir aussi, de l'habitat. Alors cette courbe, elle est intéressante parce que vous voyez qu'elle présente un maximum secondaire dans les années 70, c'est ce qu'on appelle le premier choc pétrolier dans 73, après la guerre du Kippour et la restriction qu'il y a eu assez forte sur l'accès aux ressources pétrolières, mais ça c'était pour des raisons géopolitiques. Et elle a un autre maximum, qui est un maximum absolu, qui se situe à peu près maintenant. Et ce maximum, il nous indique une chose qui est extrêmement importante, qui est que demain, on extraira moins de pétrole tous les ans, et ça de moins en moins. Autrement dit, on est arrivé au maximum de la production pétrolière. Alors évidemment, la partie droite de cette courbe est extrapolée, et les pétroliers, quand je leur présente ça, ils râlent un peu en disant que c'est pas tout à fait 2010, c'est peut-être 2014, mais ça ne change pas réellement le problème. C'est une courbe qui a un maximum, et nous sommes en train de passer ce maximum. Donc demain, nous aurons moins de pétrole, et ça de moins en moins, avec un épuisement des réserves pétrolières qui est prévu à peu près au milieu de ce siècle, c'est-à-dire dans très peu de temps, dans une trentaine d'années. Alors, si on replace cette courbe dans un contexte un peu plus large, et vous voyez que j'ai choisi une échelle arbitraire, en commençant par zéro, sans aucune référence à quelconque religion que ce soit, toujours est-il que il y a une autre date qui m'est chère, c'est 1665, parce que c'est la création de Saint-Gobain par Louis XIV pour fabriquer les miroirs de la Galerie des Glaces. Donc vous voyez que cette courbe-là, remise dans un contexte un peu plus large, c'est en fait un accident de l'histoire. Il y avait une société, il y avait un développement économique, il y avait une industrie, même si elle était naissante dans certains cas avant la découverte du pétrole, et il y aura évidemment une société, une industrie, et j'espère encore Saint-Gobain, après l'épuisement des réserves pétrolières. Et donc, la problématique n'est pas tant de savoir si l'épuisement des réserves pétrolières est un drame, mais beaucoup plus le fait que, comme c'est un accident de l'histoire, il faut s'adapter à cette situation. On en a bénéficié pendant environ 100-150 ans, on en aura bénéficié pendant 150 ans, mais il est clair que c'est une histoire qui se termine. Alors évidemment, il y a le gaz, évidemment, il y a le charbon, qui va redevenir une énergie importante, mais le gaz, c'est la même courbe décalée environ d'une cinquantaine d'années, et le charbon, c'est à peu près la même courbe décalée aussi d'une centaine d'années. Donc vous voyez qu'en fait, à l'échelle d'environ deux siècles, les hommes auront épuisé des réserves pétrolières, gazeuses et de charbon qui ont mis des millions d'années à se constituer. On aura épuisé ce qu'on appelle les énergies fossiles. Et donc, c'est face à cette situation qu'il faut prendre un certain nombre de mesures, et je pense que vous êtes tous au courant des débats qui ont eu lieu autour du Grenelle de l'environnement, et qui ont très vite marqué un certain nombre de points très importants autour de ça. Alors, comment est-ce que cette énergie accessible et pas chère, comment on l'utilise aujourd'hui? Alors, avant de regarder plus précisément ce qu'on fait avec cette énergie, je dois préciser qu'il y a un autre phénomène qui, au départ, n'a rien à voir avec ce problème d'épuisement des réserves pétrolières ou gazeuses, mais qui est quand même corrélé à cela, c'est ce qu'on appelle le changement climatique. Alors, vous avez ici une courbe qui est représentée à deux échelles différentes, une échelle qui, typiquement, est de l'ordre de 1000 ans à gauche et une échelle qui est de l'ordre de quelques centaines d'années, environ 200 ou 300 ans sur l'échelle de droite, qui correspond aux mesures de la température moyenne de la planète. Et vous voyez que sur ces courbes, c'est assez clair que la température moyenne de la planète se met à augmenter environ, vous voyez c'est 1900 ici, environ depuis le début du siècle dernier, c'est-à-dire depuis l'utilisation assez forte de réserves d'énergie fossile qui à l'époque était surtout le charbon. Bon, l'échelle n'est pas extrêmement importante. Vous voyez que la température moyenne, aujourd'hui, elle est de quelques dixièmes de degré au-dessus de ce qu'elle était avant, typiquement de 6 à 7 dixièmes de degré. Mais c'est déjà sensible, et je crois que tout le monde peut en ressentir les effets. Il y a maintenant des effets sur à la fois la biologie et le comportement des animaux qui sont très très nets. On voit toutes les populations qui vivent plus au sud, qui commencent à remonter plus au nord du fait de ce réchauffement climatique moyen. Alors, il y a une controverse autour de ça. S'il y a des questions, je peux essayer de rentrer dans les détails. Le fait, lui, est indiscutable. L'origine et les raisons, et en particulier ce que je vais dire tout à l'heure, c'est-à-dire que l'attribution de cette augmentation moyenne de la température du globe à la consommation des énergies fossiles et au relargage de ce qu'on appelle un gaz à effet de serre, qui est le CO2, reste encore un sujet de débat parmi les scientifiques, mais c'est clair que ce sujet de débat est de plus en plus vers la certitude qu'il y a une liaison forte, qu'il y a une corrélation forte entre l'augmentation de cette température et le relargage du CO2 lié à la consommation des énergies fossiles, et qu'il reste encore quelques îlots de résistance, mais qui sont manifestement en train de diminuer. Alors, qu'est-ce que c'est que le gaz à effet de serre? Qu'est-ce que c'est que ce CO2 qui est relargué dans l'atmosphère lié à la consommation des énergies fossiles? Alors, en fait, il faut se rendre compte que la Terre, c'est avant tout une planète qui est irradiée par le Soleil. Ce Soleil qui amène une quantité, on le reverra tout à l'heure, d'énergie absolument énorme à la planète, contribue fortement au réchauffement de cette planète. Et la couche d'atmosphère qui est autour fait qu'une partie de ce rayonnement repart dans l'atmosphère et re-renvoyé vers la Terre. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un effet de serre, c'est-à-dire équivalent à une serre que vous avez dans votre jardin. Le Soleil est en quelque sorte en partie piégé, ou les rayonnements du Soleil sont en quelque sorte en partie piégés par l'atmosphère, ce qui contribue au réchauffement de la planète. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, s'il n'y avait pas d'atmosphère, la température moyenne de la planète serait à moins 18 degrés. Autrement dit, il n'y aurait pas de vie sur Terre, l'eau serait à l'état solide, et l'ensemble de la planète, c'est une planète désertique. Donc, heureusement qu'il y a l'effet de serre, heureusement qu'il y a cette atmosphère, indépendamment du fait qu'on la respire, parce qu'il contribue à amener la température moyenne de la planète de moins 18 degrés à plus 15 degrés. Ce qui correspond à peu près à la valeur de la température moyenne de la planète depuis quelques milliers d'années. Ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, c'est que cet effet de renvoi de cette chaleur sur la planète, il dépend d'un certain nombre de phénomènes, dont ce que l'on appelle des gaz à effet de serre, qui sont plus ou moins efficaces à renvoyer cette chaleur. Et le CO2, c'est le gaz émis par la consommation des énergies fossiles, contribue de façon non négligeable à l'effet de serre. Et donc, en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est que on augmente la température moyenne de la planète liée à cette augmentation de quantité de CO2 dans l'atmosphère due à la consommation d'énergie fossile. Alors, en fait, c'est cette courbe-là qui a alerté les scientifiques de cet effet. C'est une courbe très célèbre qui s'appelle la courbe de Vostok, qui correspond à, sur des centaines de milliers d'années, sur cette courbe 400 000 ans, maintenant on remonte à 800 000 ans, à mesurer, à être capable de prédire en même temps, ou de retrouver en même temps, deux informations importantes. L'une, la température moyenne de la planète, et l'autre, la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Vous avez en rouge la quantité de CO2 dans l'atmosphère et en bleu la température moyenne de la planète. Et ce que vous voyez sur une échelle qui fait donc plus de 400 000 ans, vous voyez qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre les pics de CO2 et les pics de température. Et pareil pour les parties basses. Et c'est cette courbe qui a fait dire qu'il y avait une corrélation entre l'effet de serre, la quantité de CO2 dans l'atmosphère, et la température moyenne de la planète. Alors au passage, nous sommes ici. Vous voyez que ça fait à peu près 2500 ans que nous sommes dans ce qu'on appelle une partie haute du climat. Ça, ce sont les parties basses sont les périodes glaciaires, les parties entre les deux, les périodes interglaciaires. Donc nous sommes dans une partie haute du climat. Donc il fait plus chaud, comme vous le voyez, qu'à peu près chaque fois qu'il y a eu un pic. Et la quantité de CO2, elle, ce pic rouge que vous voyez, c'est l'augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère depuis environ une centaine d'années. Et ce que vous voyez, c'est que la quantité de CO2 dans l'atmosphère est largement plus élevée qu'elle n'a jamais été dans le passé, liée, ça c'est relativement incontestable, à l'activité humaine et donc à la consommation de ces énergies fossiles. Alors, c'est cette partie-là qui est inquiétante et qui fait dire à un certain nombre d'experts qui sont réunis autour d'un groupe qui s'appelle le GIEC et qui réfléchit au niveau international aux conséquences de ces effets climatiques, qui fait dire qu'actuellement, on est sur une pente qui devrait être de l'ordre de 2,5 degrés d'augmentation à la fin de ce siècle, en 2100. Et en fait, des modèles récents recalculés par le MIT ont l'air de donner plutôt 4 degrés, y compris si on fait des efforts de diminution de quantité de CO2 dans l'atmosphère. Donc on est parti dans une direction absolument irréversible, où de toute façon, il y aura une surchauffe de la planète liée à l'activité humaine. Alors, je reprends mon discours. Comment utilise-t-on cette énergie? Vous voyez qu'il y a deux phénomènes, la conséquence de deux phénomènes qui ont des conséquences différentes. Dans un cas, cette énergie, on la consomme et à un moment, elle sera épuisée. Et l'autre conséquence, c'est qu'on rejette du CO2 dans l'atmosphère, ce qui contribue au changement climatique. Alors, cette énergie que l'on consomme, elle est utilisée à quoi? Elle est utilisée, en fait, en gros, un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de cette énergie, même si les tiers sont pas tout à fait égaux, est utilisé dans l'industrie. C'est pour fabriquer des produits manufacturés. Tous les produits que vous consommez, en gros, l'industrie utilise un tiers de l'énergie pour les fabriquer. L'autre tiers est utilisé dans les transports. Les voitures, les avions, les bateaux, le chemin de fer, ça correspond à peu près à 30% de la quantité d'énergie que l'on consomme. Et un tiers, qui est en fait un gros tiers pour l'Europe, ça c'est des chiffres européens, de l'ordre de 40%, la France c'est plutôt 44-45%, presque la moitié de cette énergie, donc entre un tiers et la moitié, est utilisée pour en fait chauffer nos habitats dans lesquels nous vivons et nous travaillons. L'habitat au sens large, à la fois vos maisons, mais aussi les immeubles et aussi les bureaux et tous les endroits où nous vivons. Alors, à quoi sert cette énergie dans l'habitat? Vous avez de nouveau un graphe qui vous le montre. Grosso modo, pour quasiment 80%, elle sert à produire de la chaleur, soit pour faire de l'eau chaude, petite quantité, de l'ordre de 10%, soit pour près de 75% à fabriquer de la chaleur pour chauffer les habitations. Et puis, il y a d'autres utilisations, les appareils électriques, la lumière, mais elle reste marginale. Donc, une très grande partie de cette quantité d'énergie qui est de l'ordre de 40% qui sont consommées dans l'habitat est en fait utilisée pour chauffer les habitats. Et pour vous marquer un peu les esprits, si aujourd'hui on était capable, vous allez voir que c'est compliqué, on n'est pas capable, mais si on était capable d'avoir tous les bâtiments dans lesquels nous vivons et nous travaillons qui seraient aux normes de ce qu'on construit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la RT 2005, c'est-à-dire la norme qui fait que quand vous construisez un bâtiment nouveau, vous avez un certain nombre de critères qui doivent être respectés pour être aux normes énergétiques prévues par le gouvernement. Et être aux normes, ça ne veut pas dire faire quelque chose d'exceptionnel. Être aux normes, c'est le minimum que vous devez faire pour être dans la légalité. Donc si l'ensemble des habitats étaient dans ce minimum légal du neuf, bien évidemment, pas de l'ancien, eh bien la quantité d'énergie qu'il faudrait pour chauffer serait diminuée à peu près des trois quarts. C'est-à-dire que, en gros, c'est le chiffre qu'il faut se souvenir, 30% de l'énergie est gaspillée à chauffer des bâtiments qui ont été conçus à une époque où on ne se préoccupait pas d'économiser de l'énergie. Et 30% de l'énergie totale, c'est à peu près la quantité d'énergie qu'il faut pour faire des produits manufacturés, c'est aussi à peu près la quantité qu'il faut pour se transporter. Et là, on arrive à une conclusion qui est celle de tous les gouvernements qui ont réfléchi à cette question, et ils sont nombreux maintenant. Si aujourd'hui, il fallait économiser 30% de notre énergie et qu'on décide d'arrêter de fabriquer des produits, bien évidemment, notre vie serait profondément changée. Si on décidait d'économiser 30% et on arrêtait de se transporter, notre vie serait aussi profondément changée. Si on décide d'économiser de l'énergie en ayant des bâtiments efficaces énergétiquement, non seulement la vie ne serait pas changée, mais elle serait améliorée. Donc c'est pour ça que, très logiquement, les Allemands d'abord, puis un certain nombre de pays européens, et puis bien évidemment partout dans le monde, savent et considèrent qu'aujourd'hui, la plus grande réserve énergétique qu'il y ait pour dépenser moins d'énergie, qui va devenir de plus en plus cher et qui contribue au changement climatique, c'est avant tout d'améliorer l'habitat. Et en particulier l'habitat ancien, puisque dans des pays comme l'Europe, on a à peu près 70% des habitats qui ont été construits avant le premier choc pétrolier, c'est-à-dire avant 1970, et donc dans des conditions où on ne se préoccupait pas de l'efficacité énergétique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors on va essayer de voir justement comment à la fois l'innovation dans les produits et dans les systèmes peuvent amener des solutions à ces problèmes. Alors la première des choses, bien évidemment, va tourner autour de l'isolation de l'habitat. Neuf et ancien, c'est une des voies qui est à privilégier avant toute chose, de façon à diminuer les quantités d'énergie consommées. Mais on peut aussi avoir des voies qui font mieux utiliser l'énergie fossile. Juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, quand vous faites de l'électricité avec du gaz, alors la France est un cas pathologique dans le monde, puisqu'on a une grande partie de l'électricité qui est faite en énergie nucléaire, mais en dehors de la France, la plupart de la technologie pour fabriquer l'électricité, c'est de brûler du gaz, ce qui est le mieux, de brûler du pétrole, ce qui est moins bien, ou de brûler du charbon, ce qui est encore moins bien. Et le rendement d'une turbine à gaz est de l'ordre de, pour les bonnes, 30%. C'est-à-dire que 30% de l'énergie contenue dans votre énergie fossile, si c'est du gaz, est utilisée pour faire de l'électricité. C'est-à-dire lorsque vous utilisez 1 kilowatt d'électricité, 1 kilowattheure d'électricité, vous avez en fait consommé 3 kilowattheures de gaz. C'est pas très bon d'un point de vue du rendement, et ça peut être amélioré, j'en donnerai quelques exemples. Et enfin, il faut s'adresser au problème qui est le plus important et de loin, c'est celui d'arriver à fabriquer, utiliser et consommer des énergies renouvelables, c'est-à-dire celles qui prendront forcément la place lorsque nous aurons épuisé les énergies fossiles. Et donc c'est maintenant qu'il faut s'en préoccuper, parce que on a vu, 30 ans, 50 ans, 100 ans, ça passe très très vite, et si on ne prend pas l'habitude de développer des technologies qui, elles, sont renouvelables, évidemment, le monde se retrouvera dans une impasse. Alors on va essayer d'aborder un peu l'ensemble de ces questions, et montrer en quoi, justement, l'innovation permet de répondre à ça. Alors, la première des choses à faire, c'est, je vous l'ai dit, c'est contribuer à l'isolation des bâtiments. Là, vous avez une photo infrarouge, c'est-à-dire qui mesure les pertes thermiques d'un bâtiment avant et après isolation. Plus c'est foncé, plus c'est isolé, moins vous perdez d'énergie. Plus c'est rouge, plus vous perdez d'énergie. Vous voyez que les choses changent après que vous ayez isolé votre bâtiment. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, sous forme de clin d'œil. Voilà, ça, c'est une maison en Autriche, un endroit où il fait quand même un peu froid l'hiver, qui a été construit dans les années 60, donc avant le premier choc pétrolier. Et cette maison, eh bien, pour la chauffer, il fallait un gros réservoir de gaz. Vous voyez, vous avez un gros réservoir de gaz, et les propriétaires ont décidé de rénover cette maison. Alors, ils ont débranché le réservoir de gaz, ils ont ôté les radiateurs, ils ont ôté la cheminée, et voilà le résultat qu'ils ont obtenu. C'est la maison rénovée. Donc, vous voyez, comme dans la publicité, vous avez avant et après. Et vous voyez que ça vaut le coup d'un point de vue esthétique. Mais il y a quelque chose d'autre, c'est que Alvan, il dépensait 2700 euros par an de gaz pour se chauffer. Après cette rénovation, il dépensait 200 euros par an pour se chauffer. C'est une maison passive, c'est-à-dire c'est une maison qui consomme extrêmement peu d'énergie. Vous voyez des panneaux photovoltaïques autour des fenêtres et il y a tout un tas de technologies qui ont été mises en œuvre. Donc, ça vaut le coup de rénover sa maison. Ça vous permet non seulement d'habiter dans un habitat plus beau, mais en plus, beaucoup moins cher à chauffer, et vous économisez du CO2 et de l'énergie pour la planète. Alors, il y a des tas de façons d'y arriver. Le bois est un matériau extrêmement intéressant, y compris dans la rénovation, c'est pas toujours connu. On peut avoir des extensions faites en bois dans une maison. Et il y a des tas de solutions d'innovation qui existent, mais elles sont insuffisantes. Aujourd'hui, vous prenez un bâtiment comme celui-ci, c'est ce que l'on qualifie d'une épave énergétique. C'est-à-dire que si on chauffe ce bâtiment pendant l'hiver et qu'on mesure quelle quantité d'énergie il faut pour chauffer ce bâtiment, je suis à peu près sûr qu'on doit être de l'ordre de 400 ou 500 kWh par mètre carré et par an, c'est-à-dire des quantités qui, vous savez qu'il y a une nouvelle réglementation qui est sortie, comme les frigidaires pour les maisons, A, B, C, D, E, F, G, on doit être dans F ou G au mieux dans un bâtiment comme celui-ci. Et c'est pas l'épaisseur des murs qui sauvera la situation. Les vitrages sont très anciens, simples vitrages. Les murs sont certes épais, mais c'est compact, c'est de la pierre ou du béton, et ça conduit très très bien la chaleur. Donc c'est un bâtiment qui est très mal fait d'un point de vue énergétique, même si c'est un lieu qui est à la fois plutôt beau et prestigieux. Donc il y a des solutions d'isolation pour la rénovation, mais elles sont insuffisantes. Et aujourd'hui, les chercheurs travaillent sur des nouveaux matériaux qui permettent d'améliorer la possibilité ou les possibilités d'isoler en particulier les bâtiments anciens. Et ces nouveaux matériaux tournent toujours autour d'isolants minces, c'est-à-dire avoir la même performance d'isolation, mais en ayant des épaisseurs plus faible. Vous savez tous qu'un isolant, c'est avant tout quelque chose de relativement épais. Laine de verre, mousse plastique, laine de chanvre, laine de bois. Il existe maintenant des tas de solutions qualifiées d'écologiques. On pourra en revenir dessus s'il y a des questions. Mais toutes ces solutions, c'est avant tout de l'épaisseur d'air qui permet d'isoler correctement une paroi. Donc, et diminuer cette quantité, c'est très compliqué et très difficile. Et il y a un certain nombre de travaux qui sont faits autour de ça. Mais ça suffit pas. Il ne suffit pas d'isoler les murs. Il faut aussi isoler les vitrages. Vous avez ici quelques-uns des projets dans lesquels Saint-Gobain est impliqué au niveau international. Vous voyez que ce sont des tours spectaculaires, des tours vitrées. Et évidemment, là aussi, il y a un besoin d'isolation. Alors, comment est-ce qu'on isole du verre? On le fait de plusieurs façons. La première des choses qui est faite, c'est de mettre, c'est pas assez connu, des couches d'argent, qui sont des couches extrêmement fines, transparentes, quelques nanomètres d'argent, c'est ce qu'on appelle les verres bas-émissifs, qui permettent d'avoir un phénomène extrêmement intéressant, c'est celui d'empêcher la radiation émise par la chaleur de s'échapper du bâtiment. Vous avez cette description ici pour un verre double vitrage, donc vitrage classique, double vitrage, et vous avez un verre bas-émissif avec ces couches d'argent qui sont mises à l'intérieur de l'une des parois du verre. Et ces couches, vous le voyez décrit ici, permettent au rayonnement infrarouge, parce que tout corps qui est porté à une certaine température émet un rayonnement qui, lorsque c'est autour de 20 degrés, est un rayonnement infrarouge. Donc, si vous chauffez votre bâtiment autour de 20 degrés, à l'intérieur, il perd, c'est les photons infrarouges que j'ai montré au début, il perd par rayonnement autour de 20 degrés de la chaleur. Et ce verre ces couches, c'est en fait quelque chose qui ce qu'on appelle un système interférométrique, c'est-à-dire qui renvoie ce rayonnement se réfléchit vers l'intérieur. Et ce rayonnement infrarouge que vous ne voyez pas, mais qui contribue à perdre de la chaleur, est renvoyé vers l'intérieur, alors que le rayonnement que vous voyez, que l'on voit, lui, passe à travers, donc le vitrage reste transparent. Et ça, ça se fait avec ces couches, jusqu'à 17, 18 couches, les unes empilées sur les autres, très fines, qui permettent de renvoyer spécifiquement ce rayonnement autour de 20 degrés. Et ça améliore sensiblement la qualité du vitrage. Donc le double vitrage plus du vitrage bas-émissif, ça vous donne déjà des performances intéressantes. Et évidemment, même si en France c'est un débat extrêmement compliqué, sur lequel pareil, si j'ai des questions, je peux revenir, mais le triple vitrage est la solution idéale, c'est-à-dire que un triple vitrage avec du verre bas-émissif, c'est quelque chose qui a, en fait, d'un point de vue énergétique, et même de meilleure qualité qu'un mur, parce que non seulement au niveau de l'isolation, c'est aussi bon qu'un mur bien isolé, mais en plus, il vous permet un apport solaire extérieur via le rayonnement du soleil qui passe à travers le vitrage et vous permet de chauffer votre habitat. Alors, il y a des nouvelles solutions aussi. Ça ne suffit pas d'inventer des matériaux nouveaux. Il faut aussi inventer des systèmes nouveaux. Par exemple, dans le domaine de la rénovation, c'est très compliqué de rénover un immeuble qui est habité par des personnes. Vous allez leur demander de refaire l'ensemble de leur intérieur. Il y a des technologies qui ont d'abord été développées dans les pays du Nord qui permettent d'isoler les bâtiments par l'extérieur sans avoir besoin de toucher à l'intérieur. Et ces systèmes d'isolation par l'extérieur permettent de reprendre l'ensemble du bâtiment, de lui mettre une sorte de nouvelle peau isolante à l'extérieur sans avoir besoin de toucher quoi que ce soit à l'intérieur. Et ce sont des technologies qui se développent. Et puis vous avez, architecturalement parlant, des systèmes assez originaux. La gare de Strasbourg est probablement un exemple spectaculaire de ce que l'on peut faire avec un bâtiment ancien. La gare de Strasbourg a été entourée d'une coque de verre qui permet à la fois d'augmenter la surface accessible protégée pour les personnes qui se rendent dans cette gare, mais aussi d'améliorer fortement l'efficacité énergétique du bâtiment, qui est un bâtiment du 19e siècle. Et donc, il y a des tas d'autres exemples où la solution qui est prise par les architectes, c'est de mettre une peau en verre par exemple, qui vient recouvrir l'ensemble du bâtiment. Alors, il y a aussi de plus en plus d'utilisation de nouveaux matériaux, comme les matériaux plastiques qui permettent, voilà un exemple, qui permettent de faire de recouvrir des volumes, des surfaces extrêmement importantes. C'est ces toits blancs que vous voyez, par exemple, au-dessus du stade. Et surtout, cet exemple que vous avez tous vu à la télévision l'été dernier, du stade nautique de Pékin, qui est fait avec des polymères fluorés. Et on le verra tout à l'heure avec des diodes, qui permet d'avoir un aspect extrêmement spectaculaire. Voilà. Et puis, il y a des choses plus originales, comme par exemple, des murs végétaux qui contribuent, même si ça reste et ça restera relativement exceptionnel, mais qui contribuent aussi à l'efficacité énergétique des bâtiments, que ce soit par les toits végétaux ou les murs eux-mêmes. Voilà quelques exemples de réalisation de murs en végétal. Alors, ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que bien que ce soit un domaine traditionnel, l'isolation, il y a des choses spectaculaires au niveau scientifique qui se passent, et on est en train de passer de l'isolation statique à l'isolation dynamique. C'est-à-dire qu'on est passé d'une réponse où on essayait de protéger de façon, en isolant un système, à en allant vers un système réactif, et que je vais vous décrire deux évolutions dans ce sens. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle les matériaux à transition de phase. Alors les matériaux à transition de phase, c'est, vous en connaissez tous, c'est par exemple l'eau quand elle passe de l'état solide, la glace à l'état liquide, de l'eau liquide, à l'état gazeux aussi, de l'eau vapeur. Chaque fois qu'elle change de phase, qu'elle change de nature physique, solide, liquide, gaz, eh bien au moment de cette transition de phase, elle stocke de l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut, vous savez tous qu'il faut chauffer de la glace pour la transformer en eau, mais vous la chauffez pour deux raisons, pour élever sa température et aussi pour la transformer, une partie de cette énergie sert à la transformer de l'état solide à l'état liquide. Et cette énergie qu'il faut pour la transformer, quand inversement la glace revient de l'état liquide à l'état solide, elle restitue cette chaleur, elle restitue cette énergie. Et donc c'est une façon de stocker de la chaleur que d'avoir des matériaux à transition de phase. Alors, un exemple un peu compliqué d'un système qui a été mis en place à Vienne, pour justement utiliser ces matériaux en transition de phase, pour faire des murs qui sont isolés de façon dynamique, c'est-à-dire qui répondent à une sollicitation extérieure, et la réponse n'est pas la même en fonction de la sollicitation extérieure. Alors vous avez un mur qui est un peu compliqué, mais qui est grosso modo composé d'une plaque de verre, d'un système optique, je vais y revenir, d'une autre plaque de verre et de matériaux à transition de phase placés à l'arrière. Le système optique est fait de telle façon que, selon la hauteur des rayons du soleil, en été, les rayons du soleil ne pénètrent pas jusqu'aux matériaux situés à l'arrière, alors qu'en hiver, parce que le soleil est plus incliné sur l'horizon, les rayons du soleil pénètrent jusqu'aux matériaux à l'arrière. Et donc, grosso modo, en été, les matériaux à transition de phase restent inertes, mais en hiver, dans la journée, ils sont chauffés par les rayons du soleil, ils passent de l'état solide à l'état liquide, ils stockent de l'énergie pendant la journée quand il y a du soleil, et la nuit, lorsque ce soleil a disparu et qu'il fait froid, ces matériaux repassent de l'état liquide à l'état solide en restituant la chaleur qui a été stockée dans la journée. Donc là, vous avez un système, vous voyez, complètement naturel, où il n'y a pas de source énergétique, sauf le soleil, bien évidemment, mais qui vous permet de stocker de la chaleur pendant la journée, en hiver en plus, et pas en été, et la restituer pendant la nuit. Voilà l'exemple de ce que l'on fait pour passer de l'isolation passive à l'isolation active. Et puis, voilà un immeuble à Innsbruck qui a été construit avec ce principe-là. Un autre exemple, c'est le verre électrochrome. C'est un verre qui change de teinte en fonction d'un courant électrique qui peut être, par exemple, décidé par des capteurs. Vous avez ici un immeuble pilote que l'on a monté à Madrid. Vous voyez ce verre électrochrome ici, puisqu'on peut le faire des parties sombres et des parties claires. Voilà ce que ça donne de l'intérieur, des parties sombres et des parties claires, c'est vous qui décidez. Et évidemment, en fonction de l'arrivée du soleil, vous pouvez doser la quantité de lumière qui pénètre et donc aussi la quantité de chaleur. Voilà, donc c'est complètement sombre. Alors, à part l'isolation, je vous ai parlé, il faut aussi penser à économiser l'énergie fossile. Il faut aussi réfléchir à faire en sorte que cette énergie qui est rare et qui va devenir relativement chère, on la consomme, certes, mais de façon le plus économe possible. Alors, trois exemples que je vais traiter rapidement, le puits canadien, la pompe à chaleur et la pile à combustible. Alors, le puits canadien, c'est quelque chose qui est très connu, enfin qui est connu de façon depuis de très nombreuses années, et qui s'appelle le puits canadien au Canada et le puits provençal en Provence, parce qu'il a une fonction de régulateur. Ça part du fait que le sol, dès que l'on descend à 1 ou 2 mètres du sol, la température est à peu près constante et de l'ordre de 12 à 14 degrés. Vous avez l'expérience quand vous descendez dans une caverne, vous savez que même en hiver, c'est rare que la température descende en dessous de 12 degrés, et en été, même s'il fait 40 degrés à l'extérieur, au fond de la caverne, il fera de l'ordre de 12 à 14 degrés. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le fait que le sol est à une sorte de réservoir thermique inerte, avec une énorme capacité thermique, pour prendre l'air qui est à l'extérieur et au lieu de l'injecter directement dans la maison à la température où elle est à l'extérieur, donc froide en hiver, chaude en été, eh bien vous la faites passer par le sol pour la mettre en température, vous faites un échange thermique, et cet air est mis en température au niveau du sol. Quand vous prenez de l'air froid, disons moins 10, vous le transformez au niveau du sol à plus 10 et vous faites rentrer dans votre maison de l'air à plus 10. C'est évidemment beaucoup moins cher de chauffer de l'air à plus 10 degrés que de chauffer de l'air à moins 10 degrés. Et inversement, en été, si vous avez de l'air à plus 40, plutôt que de le refroidir directement, eh bien vous le faites baisser en température autour de 15 degrés à travers un puits provençal et vous climatisez votre maison avec de l'air à 15 degrés sans même avoir besoin de climatiseur. C'est une fonction tout à fait naturelle et de plus en plus développée. Alors vous avez ici par exemple l'exemple d'une régulation d'un habitat en vert lorsque vous utilisez un puits canadien et en rouge lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous voyez que vous avez des fluctuations jour-nuit qui sont bien plus atténuées. Alors vous avez aussi une version un peu plus sophistiquée de ce système qui est quand vous le couplez avec une pompe à chaleur. Lorsque vous le couplez avec une pompe à chaleur, alors une pompe à chaleur, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est un frigidaire à l'envers. Qu'est-ce que fait un frigidaire? Un frigidaire, ça ôte de la chaleur à l'intérieur du frigidaire et ça chauffe. Vous avez tous passé la main derrière votre frigidaire, vous avez tous que votre frigidaire chauffe. Il refroidit l'intérieur, mais il chauffe votre pièce. C'est l'inverse. L'idée d'une pompe à chaleur, c'est vous allez chauffer l'intérieur et refroidir l'extérieur de la maison. Et vous allez avoir une source froide que vous allez encore plus refroidir, de nouveau, vous allez utiliser le sol. Vous pouvez aussi utiliser l'air, de nouveau, on pourra en parler, mais idéalement, vous utilisez le sol. Et donc, ce sol qui est une sorte de réservoir thermique, vous allez le refroidir, et en prenant ces calories qui sont dans le sol, vous allez chauffer, en produisant avec une pompe à chaleur du travail, de la chaleur à l'intérieur de votre pièce. Et alors, la beauté de la pompe à chaleur, c'est que c'est quelque chose qui, et c'est la thermodynamique qui nous le dit, en gros, pour 1 kWh de travail, vous allez récupérer 3, 4, 5, vous pouvez aller même des fois plus haut, kWh de chaleur. Autrement dit, la force de la pompe à chaleur, c'est que en dépensant de l'énergie de l'ordre de 1 kWh, vous allez récupérer 3 à 4 kWh de chaleur, et donc vous économisez, même si vous en consommez quand même, l'énergie précieuse. Dans le cas présent, les pompes à chaleur sont en général des pompes électriques. Et puis vous avez la pile à combustible. Alors la pile à combustible, je vais voir si j'ai... Oui, j'ai un schéma pour expliquer comment ça marche. Alors, une pile à combustible, c'est un système qui est très ancien, et qu'on ne sait toujours pas faire industriellement, qui est très compliqué à faire, qui consiste à faire une combustion, mais une combustion contrôlée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une combustion? Vous avez un petit dessin ici. En gros, une combustion, c'est que vous prenez des molécules d'un carburant, là j'ai mis du méthane, des molécules d'oxygène, vous les combinez ensemble, et lorsqu'elles sont combinées ensemble, elles vous donnent de la chaleur. Mais en fait, elles font quelque chose d'autre, ces molécules, quand elles sont combinées ensemble, elles échangent des électrons. Et ces électrons s'échangent au niveau des atomes. Évidemment, quand vous brûlez du gaz, vous ne vous en apercevez pas. Et l'idée de la pile à combustible, c'est de dire, on va séparer les molécules de façon à ce que on ait la chaleur comme quand on brûle du gaz, mais on va forcer les électrons à passer à l'extérieur. Et si on force les électrons à passer à l'extérieur, eh bien, vous fabriquez de l'électricité. C'est pour ça que ça s'appelle une pile à combustible. Vous consommez un combustible, mais vous fabriquez de l'électricité, comme dans une pile. Et donc, l'idée, c'est, vous allez avoir à la fois l'électricité et la chaleur. Et quand vous faites ça, vous avez des rendements énergétiques. Alors, l'intérêt, c'est que ça se passe dans des compartiments qui sont faits en céramique, qu'il faut bien séparer, qui sont très compliqués à faire. Et aujourd'hui, encore, on ne sait pas faire ces compartiments à un coût et avec une fiabilité qui permettent de faire des produits sur le marché, mais bien des entreprises y travaillent, et un jour, je pense, on verra des piles à combustible arriver. Alors, les énergies renouvelables. Alors, c'est évidemment l'un des grands aspects de la recherche dans tous ces domaines, parce que c'est celui vers lequel nous sommes tournés pour le futur. Alors, vous avez des énergies renouvelables anciennes, classiques, l'énergie hydroélectrique, des barrages, par gravité vous faites couler de l'eau dans des turbines, ces turbines produisent de l'électricité, c'est l'hydroélectricité complètement classique, mais qui en France, on a la chance d'avoir de l'ordre de 12% de notre électricité qui est faite par ce type de mécanisme. Et puis évidemment, vous avez l'énergie solaire, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est certainement la seule énergie qui soit réellement à l'échelle de la consommation de la planète. Aujourd'hui, la consommation de la planète correspond à peu près à 1 pour 1000, donc 0,1% de la quantité d'énergie qui nous est envoyée par le Soleil. Autrement dit, très peu de cette énergie est suffisante pour l'ensemble de la consommation de la planète et on est très très loin de la saturer. Le problème, c'est de la capter et de l'utiliser. Je parlerai aussi un tout petit peu, si j'en ai le temps, de la biomasse. Je vais accélérer un tout petit peu. Alors, l'énergie solaire. Vous avez l'énergie solaire thermique qui consiste juste à avoir des panneaux dans lesquels vous faites passer de l'eau. C'est comme quand vous avez oublié votre tuyau d'eau dans votre jardin. Il chauffe et vous avez de l'eau chaude qui est simplement produite par absorption de la chaleur liée au rayonnement solaire. Mais vous pouvez aussi faire de l'électricité avec cette chaleur. Ici, vous avez un exemple de ce qu'on appelle une centrale à concentrateur. Ce sont des miroirs paraboliques qui concentrent le soleil sur un tube. Dans ce tube, vous mettez un liquide qu'on appelle un liquide caloporteur, qui récupère cette chaleur, qui est montée à haute température. Et avec ce liquide à haute température, ben vous faites comme quand vous chauffez avec du gaz ou comme quand vous chauffez avec de l'énergie nucléaire une centrale classique d'électricité, vous évaporez de l'eau que vous passez dans des turbines et qui produit de l'électricité. Et c'est une façon qui est malheureusement limitée aux pays qui ont à la fois des grandes surfaces et beaucoup de soleil, donc des pays en général désertiques, donc à ce qu'on appelle les pays de l'arc solaire, qui correspondent à peu près en Europe, tout au sud de l'Europe, un peu l'Espagne, et évidemment les pays du Maghreb. Et il y a des grands projets de fabrication de centrales électriques liées à ces centrales à concentrateurs. Voilà quelques exemples. Alors après, vous avez des multiples façons de concentrer. Vous le concentrez sur une tour, vous le concentrez au centre d'un foyer d'une parabole, vous avez des champs. Enfin, il y a plein d'idées et de réalisations autour de ça. Et vous avez l'énergie photovoltaïque. L'énergie photovoltaïque étant un peu spéciale dans ce sens que c'est une conversion directe du rayonnement du soleil en électricité par un effet qui s'appelle l'effet photoélectrique, qui a valu à Einstein le prix Nobel pour ses travaux en 1905, et qui correspond au fait que certains matériaux, quand ils reçoivent le rayonnement du soleil ou quand ils reçoivent un rayonnement, émettent des électrons, et de nouveau, comme dans la pile, il suffit de récupérer ces électrons pour les utiliser comme signal électrique. Alors voilà, alors ce qui est intéressant dans l'électricité, c'est que dans le solaire, c'est qu'on utilise les mêmes termes que l'agriculture. Alors vous faites des champs photovoltaïques et puis vous récoltez de l'électricité. Ce sont exactement les mêmes termes. Mais la force de l'énergie photovoltaïque, c'est aussi de pouvoir être disséminée sur l'ensemble des toits des habitations et d'être ce qu'on appelle une production diffuse d'énergie. Alors là, il y a deux grands problèmes à résoudre. Vous savez que ça existe déjà, ça se développe, ça s'est beaucoup développé en Allemagne, ça se développe en France, mais il y a deux problèmes à résoudre. Le premier, c'est l'intégration de ces panneaux photovoltaïques au toit. Vous avez ici quelques exemples de choses, pour les gens qui sont allés en Allemagne, il y a beaucoup de toits de ce genre en Allemagne, c'est pas particulièrement esthétique. Et puis, donc vous préférez avoir des toits comme celui-ci qui a été réalisé avec des panneaux de Saint-Gobain et qui sont beaucoup plus évidemment esthétiques une fois que c'est intégré. Mais il y a une autre problématique. La problématique, c'est la problématique du coût. Il faut aussi, pour que cette énergie devienne compétitive, baisser globalement d'un facteur 2 la fabrication et la pose des produits solaires. Voilà. Alors si vous voulez avoir un toit qui ressemble pas à un satellite, il va falloir faire des progrès sur l'intégration du photovoltaïque dans le toit. Alors il y a des sociétés, cette société allemande fait par exemple des toits complètement intégrés qui intègrent plusieurs fonctions, le thermique, le photovoltaïque, la possibilité d'aération, et ça donne des choses qui sont quand même un peu meilleures au point de vue esthétique. Une petite société aux États-Unis qui fait des tuiles photovoltaïques ou des systèmes qui sont un peu plus intégrés, c'est toujours aux États-Unis, on fait ce qu'on appelle des bardeaux synthétiques photovoltaïques. Alors, je vais sauter la partie sur la biomasse, je suis désolé parce que sinon ça risque d'être un peu long. Si j'ai une question, je peux y répondre, parce que je voudrais vous parler un petit peu d'éclairage avant la fin de mon exposé. Alors l'éclairage, c'est quelque chose qui est en train de se transformer profondément. Historiquement, les systèmes éclairants sont des systèmes extrêmement peu efficaces. Dans une lampe classique, une lampe d'Edison, vous avez environ 48% de l'énergie qui est utilisée pour chauffer et 2% pour éclairer. Autrement dit, une lampe, c'est un appareil de chauffage qui éclaire, c'est pas du tout un appareil d'éclairage qui chauffe. Et ça, c'est évidemment pas très grave, ça n'a pas été très grave pendant des centaines d'années, ça le devient plus parce que la consommation électrique devient problématique. Alors, il y a un nouveau type d'éclairage qui apparaît, c'est ce qu'on appelle l'éclairage électronique. L'éclairage électronique, ça utilise, comme dans l'électronique, ce qu'on appelle des jonctions. Donc vous avez deux matériaux qui sont, je ne sais pas si j'ai un dessin, non, je n'ai pas mis le dessin. Vous avez deux matériaux qui sont l'un contre l'autre, et vous jouez sur le fait que l'électron passe à travers cette jonction pour faire des fonctions, qui sont des fonctions électroniques en général. Mais là, si vous mettez entre les deux morceaux, entre les deux matériaux, vous mettez ce qu'on appelle un matériau luminophore, c'est-à-dire un matériau qui, lorsqu'il voit passer des électrons, se met à éclairer, c'est l'inverse du photovoltaïque, vous pouvez faire une lampe, une diode, à partir de ces jonctions électroniques. Alors vous avez deux sortes de systèmes électroniques, vous avez les LED. Alors les LED, maintenant on commence à en voir un peu partout, on en voit même sur les automobiles maintenant, à la fois en phare arrière et en phare avant. C'est justement ces petites jonctions électroniques faites avec des cristaux, c'est en général assez petit, mais assez puissant maintenant au niveau de l'éclairage. Mais vous avez un nouveau système qui va apparaître, qui n'existe pas encore, et qui existe dans les laboratoires, mais qui n'existe pas sur le marché, qui sont des OLED. Alors les OLED, c'est comme les LED, c'est-à-dire que c'est un système de jonction électronique, mais au lieu d'utiliser des cristaux de petite taille, vous faites ça avec quelque chose qui est comme de la peinture. Donc vous mettez une couche de peinture d'un certain matériau, une couche de peinture luminophore, une autre couche de l'autre matériau, et vous fermez, et vous avez des surfaces éclairantes. Et ces surfaces éclairantes, contrairement à ces points éclairants, ça va permettre, ou ça permettra, dans les habitats, de faire des choses assez spectaculaires. Alors, vous avez ici quelques exemples d'utilisation de LED, à la fois pour une ampoule normale et un système éclairant au plafond. Et puis, vous pouvez avoir des choses spectaculaires, parce qu'en plus, vous pouvez choisir la couleur, ou changer de couleur avec ces systèmes d'éclairage électronique. Donc, vous avez ici, par exemple, à Shanghai, un immeuble entièrement fait en LED. Alors à partir du moment où vous avez ces systèmes de surface éclairante, donc des OLED, vous pouvez imaginer faire des luminaires classiques. Donc, c'est une surface qui éclaire, il n'y a rien de fantastique à ça. Mais vous pouvez aussi faire des murs qui éclairent, Vous pouvez aussi faire des sols qui éclairent. Donc vous voyez que la différence, c'est qu'à partir du moment où vous allez avoir un éclairage qui va éclairer avec une surface qui pourra être intégrée au matériau, la fonction même de l'éclairage, qui est en général de mettre un luminaire au milieu de la pièce, peut changer énormément et devenir un éclairage qui s'intègre à la fois d'un point de vue esthétique et d'un point de vue fonctionnel au mur, au sol ou au toit. Alors après, comme vous pouvez changer la couleur, vous pouvez faire des choses tout à fait splendides. Alors vous avez par exemple ici une salle de bain un peu kitsch, mais vous avez aussi des robinets qui sont bleus quand l'eau est froide et rouges quand l'eau est chaude. Donc voilà, vous pouvez voir la couleur de la chaleur de votre eau. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, ça change de couleur, vous pouvez décider de la couleur de vos murs avec des OLED. Voilà, il y a encore quelques exemples de réalisations spectaculaires. Alors, je vais vous passer un petit film, si on pouvait éteindre... Ah ben, il n'y a pas de lumière, donc c'est vite éteint. Je vais vous passer un petit film qui va un peu illustrer ça. Alors, pourquoi je passe ce film ? Parce que il utilise la réalité virtuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle ? Bon, c'est facile, je suis sûr que vous êtes tous addicts aux jeux vidéo, c'est la même chose que les jeux vidéo. Mais c'est utilisé dans l'industrie, dans deux grands domaines, l'industrie de l'automobile et l'industrie de l'aéronautique, pour essayer de prévoir le fonctionnement ou le design de certains produits avant qu'ils existent. Autrement dit, c'est des produits qui n'existent pas, qui sont conçus sur l'ordinateur, mais vous pouvez simuler leur fonctionnement. Alors, juste pour illustrer un certain nombre que j'ai dit, on va le faire avec une maison, de façon à ce que vous compreniez ce que l'on peut faire avec. Alors, il faut que je retrouve mon film, voilà. Il faut que je le retrouve, mais je ne le retrouve pas. Ça va être celui-là. Voilà. Alors. Voilà. Donc, imaginez-vous que c'est une maison qui n'existe pas, c'est une maison qui a été fabriquée sur l'ordinateur, vous rentrez dans votre maison, voilà, vous visitez un peu la maison, et puis vous pouvez décider vous-même, imaginez-vous que vous êtes en immersion, vous avez ici quelque chose qui est une lampe, vous allez la voir tout à l'heure, vous avez un toit, et la nuit tombe, donc vous décidez de passer à la nuit, et vous allumez des lumières qui sont pour le moment des lumières complètement classiques. Donc ces lumières classiques, dans une maison qui somme toute est classique, vous allez y introduire des choses moins classiques. Par exemple, cette lampe qui est en fait une lampe transparente qui va s'allumer. Vous allez le voir tout à l'heure, voilà. Et donc vous pouvez choisir le design de l'éclairage. Donc voilà un type de design. Vous pouvez en choisir d'autres ou encore un autre en fonction de vos goûts. Vous pouvez aussi faire des meubles éclairants et éclairer aussi un certain nombre, dont un mur d'OLED. Ce mur d'OLED va éclairer votre salle de bain. Le sol lui-même peut être éclairé et fait partie du décor de votre habitat. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez changer la couleur. Donc vous allez une télécommande et vous allez pouvoir vous battre pour savoir dans quelle ambiance colorée vous voulez passer votre soirée. Vous pouvez faire du jaune, mais vous pouvez faire aussi du bleu. Voilà. Et puis vous pouvez illustrer avec cette réalité virtuelle des fonctions intéressantes. Par exemple, vous allez à l'extérieur. Donc allons à l'extérieur. Voilà, on traverse la fenêtre. Et à l'extérieur, il y a du bruit, bien sûr. Donc vous revenez à l'intérieur avec du simple vitrage, avec du double vitrage, avec du triple vitrage. C'est mieux. Et vous avez un voisin un peu bruyant, pareil, vous allez vérifier qu'il est vraiment bruyant. Vous revenez à l'intérieur, bon, c'est un peu mieux, mais pas supportable. Et là, vous pouvez mettre des systèmes d'isolation sonore qui vous évitent d'avoir un voisin, d'entendre votre voisin. Évidemment, vous ressortez de votre maison par le toit et vous avez un toit photovoltaïque qui illustre l'une des fonctions d'un toit intégré. Voilà, ça c'était juste pour illustrer, si j'arrive maintenant à sortir de là, voilà, et reprendre la fin de ma conférence, parce que je vous avais promis de vous expliquer pourquoi ces habitats étaient des habitats, en fait, tout à fait sophistiqués. Alors, il y a une raison très simple pour comprendre pourquoi ces habitats mettent en jeu un certain nombre des principes que j'ai décrits dans ma conférence. Et je vais les reprendre. C'est que, évidemment, ils ont été construits ou ils sont construits par des populations qui n'ont pas accès à une énergie peu chère et facile d'emploi. Donc, les humains ont construit des habitats sans avoir ressources à l'utilisation du pétrole ni du gaz, et donc ont d'eux-mêmes mis en place des systèmes qui ont permis d'avoir les fonctions d'économie d'énergie nécessaires parce qu'ils n'avaient pas accès à une énergie facile. Alors, juste pour illustrer, les maisons troglodytes, c'est exactement l'exemple que je vous ai donné des puits canadiens. On construit des maisons adossées à une montagne qui a une énergie thermique énorme dans une caverne. En été, il fait moins chaud, en hiver. En été, il fait moins chaud, en hiver, il fait moins froid. Ces habitats d'Afrique utilisent les matériaux à transition de phase. C'est des habitats en argile. Pendant la nuit, l'eau se condense à l'intérieur de cette argile. Et pendant la journée, lorsque le soleil tape, cette eau s'évapore. Elle s'évapore en rafraîchissant l'intérieur de la maison. C'est, pour ceux qui font un peu de camping, l'équivalent de ce qu'on appelle la vache à eau, qui garde de l'eau fraîche en laissant s'évaporer une partie de cette eau à travers les pores de la vache à eau, en changeant la phase, cette fois, de liquide à vapeur. Et puis, cette maison est de loin la plus sophistiquée. C'est un igloo. Alors, l'igloo, ça met en place plein de principes intéressants. Le premier principe, c'est d'abord, c'est une maison isolante. C'est-à-dire que vous faites ça avec de la neige, et la neige, c'est un isolant. C'est un matériau poreux qui immobilise de l'air, et donc vous commencez par construire une isolation. Il fait moins 40, moins 50 à l'extérieur, c'est invivable à l'intérieur. Donc vous commencez par isoler. Et puis, ça suffit pas de faire le matériau poreux, parce que lorsque vous avez une isolation, si vous avez un matériau poreux, l'air peut passer, surtout s'il y a du vent, à travers ce matériau poreux et refroidir même en diffusant à l'intérieur de l'habitat. Donc en général, dans les systèmes isolants, ce que l'on fait, c'est qu'on met un système d'isolation et on met une membrane, cette membrane qui empêche l'air de circuler à l'intérieur. C'est exactement ce qui se passe dans un igloo, parce que quand vous rentrez dans votre igloo, votre corps chauffe la paroi un peu, fait fondre un tout petit peu cette neige qui se reforme sous forme de glace. Et cette glace très peu épaisse vous forme une membrane qui, cette fois, n'est pas isolante en tant que telle, mais qui empêche l'air de traverser le matériau lui-même isolant qui reste de la neige. C'est équivalent à des systèmes constructifs complètement classiques lorsque vous isolez aujourd'hui une maison en ayant à la fois l'isolant et la membrane qui vient protéger cette isolation. Mais cet igloo fait en plus quelque chose d'intéressant, qui est ce que je vous ai décrit dans les vitrages. Votre corps émet un rayonnement qui est à 37 degrés. Un peu plus si vous avez de la fièvre. Et ce rayonnement qui est à 37 degrés, vous l'émettez partout autour de vous. Et comme vous avez des parois qui sont blanches, blanches, ça veut dire qu'elles réémettent toutes les couleurs que vous émettez, c'est-à-dire qu'elles réémettent toute la lumière qui est émise. Mais non seulement la lumière, mais aussi l'infrarouge. Ces parois blanches de l'igloo réémettent l'infrarouge que vous émettez par votre chaleur à 37 degrés. Et comme c'est un habitat sphérique, quand vous êtes au milieu de cet igloo, cette émission de chaleur que vous avez, qui vous est ensuite renvoyée par les parois, vous chauffe en retour. Autrement dit, vous êtes votre propre radiateur. C'est équivalent à ce que je vous ai décrit tout à l'heure, comme étant ces couches d'argent sophistiquées qui vous permettent de renvoyer la chaleur d'infrarouge. Et c'est ce qui se passe aussi dans l'igloo. Ce qui fait que dans un igloo, même si l'air est à 0 degré, alors qu'il fait moins 50 dehors, vous pouvez avoir une impression de l'ordre de 15 degrés, parce que vous-même, vous contribuez à vous réchauffer par ce rayonnement de cet igloo qui vous est renvoyé. Voilà. Je crois que j'ai fini. J'ai à peu près tenu le temps. J'ai peut-être dépassé un petit peu. Désolé. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions.